Chers auditeurs, bonjour. Vous avez rendez-vous maintenant pour une nouvelle émission de Mono Petit, Ma foi, j'y crois. Le principe de cette émission, vous le connaissez et nous l'aimons. Laissez s'exprimer librement la foi qui anime l'invité. Cependant, certains d'entre vous pourraient être choqués par les propos que tient l'invité de Benoît Petit aujourd'hui sur les liens entre l'Église et la franc-maçonnerie. Aussi, je vous rappellerai, avant de rentrer dans l'émission, l'hostilité affichée du pape François et ses propos de Benoît XVI. Les fidèles qui appartiennent aux associations maçonniques sont en état de péché grave. En effet, les motifs pour lesquels l'Église continue de condamner la franc-maçonnerie sont au nombre de quatre. Le naturalisme, l'anticléricalisme, le relativisme doctrinal et enfin le secret maçonnique. Chers auditeurs, comme toujours, écoutez votre radio avec un esprit critique. Bonne émission.
Ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Paul Pistre, vous êtes professeur d'histoire et ami des maçons. Il va falloir nous expliquer ça, mais d'abord, vous êtes occitan de Béziers et vous avez conjugué, heureusement dites-vous, une éducation laïque et une formation religieuse. Votre papa n'était pas très...
Pas du tout.
Pas très pratiquant, pas très croyant, mais votre maman...
Mais ce n'est pas l'influence familiale qui a joué tellement, c'est la chance d'avoir eu un patronage remarquable qui est devenu une œuvre d'avant-garde grâce à un prêtre étonnant.
Le patronage, c'est-à-dire le catéchisme et puis...
Après
le catéchisme.
Justement, il a laissé le catéchisme et il a pris uniquement la formation d'adolescent. Et là, ça m'a donné une foi juvénile, excellente, mais dans l'enseignement public et dans un milieu laïcard.
École normale
d'abord, j'ai perdu ma foi et je l'ai retrouvée avec un peu de peine, mais c'est une foi adulte, dans une église qui me convient toujours.
Et que vous n'avez pas quitté. Et en même temps, je pense que vous êtes parti en Normandie.
15 ans.
Là où vous êtes marié et où vous avez... en fait, déjà pratiqué non seulement dans les paroisses, mais aussi, c'est la paroisse universitaire.
Oui, exactement, dans les équipes enseignantes, qui étaient à cette époque-là en difficulté, mais qui s'en tiraient très bien. Et puis après, la paroisse universitaire aussi.
C'était avant mai 68.
J'ai vécu mai 68, j'étais responsable syndical, enfin, j'ai eu toute une série. Je n'ai jamais accepté d'être chrétien sans être coupé des milieux à côté, syndicalistes, et en particulier je suis très très engagé dans un foyer laïque du quartier. Je suis l'historien du quartier, j'ai été aussi l'historien de mon lycée technique où j'enseignais, etc. J'ai été écoutant SOS Amitié.
Ma foi, j'y crois. Une foi sans les œuvres, dirait Saint-Jacques, c'est comme une cloche qui sonne faux, et en même temps, il faut pas seulement la foi, mais aussi la charité dans la famille, dans le couple et dans le quartier. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, puisque vous êtes, on peut le dire, un spécialiste comme historien, un spécialiste des francs-maçons, de la maçonnerie?
Oui, alors là, il y a plusieurs raisons. La plus importante, non seulement j'en ai dans la famille, en particulier un qui a été résistant et qui a baisé et demeuré célèbre, il est martyr de la résistance, mais surtout parce que dans les 22 ans que j'ai passé au lycée technique de Toulouse, Déodat de Sévrac, j'ai eu comme collègues deux membres du Grand Orient qui n'étaient pas des membres ordinaires. Ils étaient l'un et l'autre. À 15 années de différence, ils avaient été grands maîtres adjoints du Grand Orient de France.
Ça, faudra vous nous expliquer la hiérarchie. C'est comme entre un chanoine ou un évêque ou un cardinal. Vous parlez peut-être à des personnes qui ne sont pas très compétentes. Vous êtes historien. Reprenons à la base. Alors, parce que qu'est-ce qu'une loge ?
Alors, de même que les chrétiens ont une paroisse protestante, catholique, de même que le syndicalisme ou la politique a des sections, de même, la base, la cellule de base, c'est la loge. Entre 20 et 100 inscrits. Elle se réunit tous les 15 jours pour une soirée et elle est relativement autonome, bien qu'elle se trouve rattachée à un organisme national qu'on appelle l'obédience. Et alors, à la tête de l'obédience, il y a évidemment un grand maître et deux grands maîtres adjoints pour l'aider. Mais vous devinez l'ampleur du travail que ça représente pour un simple prof de lycée d'être grand maître adjoint. Et la charge que ça représente. Il y a quand même, aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a jamais eu autant de maçons qu'aujourd'hui.
Non, je ne sais pas. Et entre autres à Toulouse, je crois.
150 000 en tout, tous adultes, en grande majorité hommes, quelques femmes aussi. Et chaque obédience a des effectifs différents. La plus importante, la plus ancienne aussi, c'est le Grand Orient, qui a 55 000 personnes, et qui depuis peu, depuis quelques années, est devenu mixte, alors qu'il a été longtemps uniquement masculin.
Oui. Sur quel principe ? Pas d'esclaves et pas de femmes, disaient certaines
sont les constitutions d'Anderson, un Anglais qui, en 1717, a créé la maçonnerie moderne. Et les constitutions d'Anderson ont été écrites en 1723, première édition, une deuxième édition un peu après, et qui disait entre autres qu'elle est ouverte à tous les hommes de bonne volonté, sauf les esclaves et les femmes. Et ça a été très difficile pour les obédiences d'adopter des femmes. Ce sont les Français qui ont forcé la main aux autres étrangers. Et il y a désormais des obédiences et des loges masculines, il y a des loges mixtes et des loges féminines. Chacun choisit.
On peut passer d'une loge à l'autre.
Bien sûr.
Les loges ne sont pas des sectes, comme le rapport Vivien avait évoqué de certaines...
Comme l'Église a toujours dit que c'était une secte. L'Église catholique a été la grande ennemie de la maçonnerie. Il ne faut pas s'étonner que les maçons aient été souvent en situation d'opposition. C'est l'Église qui a attaqué la première.
Dès le début.
Alors que les maçons n'avaient pas encore bougé. Elle est un peu excusable parce que lorsque la maçonnerie s'est implantée, tous les États d'alors ont été contre. Mais la plupart ont rengainé leurs oppositions, tandis que l'Église s'est acharnée vraiment pendant 250 ans. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il ne faut pas s'étonner. Et les termes utilisés par la curie romaine étaient très durs, étaient insupportables pour les maçons. La maçonnerie était considérée comme une secte, comme la contre-Église.
Elle faisait de l'ombre, elle était concurrente à cause des rites d'initiation, d'une représentation du monde,
Mais là, l'hostilité contre les juifs, qui était terrible pour les catholiques, l'hostilité contre les maçons, les papes l'appelaient la synagogue de Satan. Et alors, non seulement la curie a employé des termes très durs pour la maçonnerie, excommunication, mais encore, les fidèles ont ajouté des choses énormes. On a aujourd'hui beaucoup de mal à comprendre tout ce qui a pu se dire, s'écrire. Et les catholiques français ont avalé tout ça. C'est invraisemblable. Les maçons disent que nous sommes les champions de l'intolérance. Les dogmes sont absolument irrationnels.
L'Église était contre également les communistes qu'elle a excommuniés jusqu'à une certaine date. Donc là, il y a une ouverture, déjà vous dites en 1914, sans doute.
Les communistes, notamment Lénine et Trotsky, ont été très durs pour les maçons. Il n'y a jamais eu de maçonnerie dans les pays communistes. Il n'y en a pas encore, excepté Cuba. Mais aujourd'hui, la maçonnerie, qui a 3 siècles d'existence, donc qui a une très longue histoire, qui a formé des hommes remarquables, je vous citerai tout à l'heure quelques-uns. Mais non seulement elle a formé des hommes remarquables, mais encore elle est à la base de réformes étonnantes et durables. Et aujourd'hui, donc, aucun État communiste, sauf Cuba, n'a des maçons chez lui. Et de même, il n'y a plus de maçons maintenant dans les pays majoritairement islamisés, sauf Turquie et Maroc. Mais à part ça, Elle est partout, dans toute l'Europe, en toutes les Amériques.
Oui, mais elle agit masquée. Il y a le secret. Et donc, c'est peut-être ça qui fait peur, le fait de ne jamais dire « j'appartiens à telle loge ou je rencontre tel ou tel frère ». Et vous dites pourtant une grande fraternité.
Ah, il y a chez eux une fraternité vécue. Ce n'est pas une fraternité proclamée, c'est une fraternité vécue. En particulier, il y a un détail qui est très important. Ils se réunissent tous les 15 jours dans le temple. Il y a 8 temples à Toulouse et région immédiate. Et ils se réunissent en soirée. Et quand vers 10-11 heures du soir, ils ont fini. À ce moment-là, ils se mettent dans une pièce à côté qu'ils appellent le parvis. Et un restaurateur leur apporte un repas frugal qu'ils consomment toutes les fois. Imaginons que nous, dans nos paroisses chrétiennes, à la sortie de la messe, une fois tous les 15 jours, nous mangeons ensemble. Que nous ne mangeons pas une fois, mais constamment, tous les 15 jours, un an, 2 ans, 10 ans. Voyez un petit peu l'atmosphère de la paroisse. Alors qu'on est souvent à la paroisse, à côté de gens à qui on ne dit même pas bonjour.
Oui, mais quand on se rend service entre copains, d'autres vont dire que c'est une corruption et qu'on s'échange beaucoup plus que la possibilité d'avoir tel emploi ou un strapontin pour des relations sociales.
Dans toute association, il y a ce risque. Et il n'est pas plus net en maçonnerie qu'ailleurs, même si on dénonce telle ou telle affaire louche. Et je crois que les chrétiens ont des choses à remarquer chez les maçons. En voilà une. Ils s'appellent frères ou sœurs, ils se tutoient tous. Vous voyez ce que ça représente. Dans une loge, vous avez un député, un maire, un fonctionnaire supérieur, etc. C'est très intéressant pour eux. Et en même temps, il y a une pédagogie remarquablement adaptée.
Mais vous faites de l'encens sur ce groupe, alors que vous avez apporté une chanson de Brassens, « La mauvaise réputation ». Il faudra nous expliquer un petit peu cette contradiction, Paul.
Avec plaisir.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi de taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais...
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et ce soir, avec Paul Pistre, vous êtes professeur d'histoire, chrétien convaincu et ami des maçons. Alors, tous ces mots, la corruption, le secret, les voleurs de pommes, tout le monde médit de moi. Bon, vous avez juste évoqué pourquoi il y avait eu cette animosité entre deux institutions importantes. Et peut-être une certaine recherche du pouvoir, vont dire les autres, et d'autres vont dire non, une recherche d'une sagesse. D'ailleurs, ça commence par la sagesse de Salomon, au début de son sacre, parce qu'à la fin de sa vie, c'était peut-être temple.
Tout est humain. Mais n'exagérons pas la réputation des maçons. il joue un rôle considérable aujourd'hui en France et depuis longtemps. Et ce n'est pas qu'en France. Les maçons français sont un peu obnubilés par leur maçonnerie. Mais il y a une maçonnerie internationale. Un exemple, les États-Unis. Tout le monde sait que c'était une colonie anglaise qui s'est révoltée contre les colons. Des colons sont révoltés contre le gouvernement anglais. Et ils ont installé une république. C'est la première république moderne. En 1776, à une époque où il n'y avait aucune république dans le monde. Et qui a installé la république? Ce sont les maçons. À commencer par Washington, qui était le général en chef des colons révoltés, à commencer par Franklin, le savant parasonnaire, qui a été maçon en France, puis qui est revenu aux États-Unis. Et n'oublions pas Lafayette, le jeune marquis de 20 ans, français, qui est parti aux États-Unis, enfin en Amérique, pour aider les insurgés. Et il a été le fils spirituel de Washington.
Et mais en France, vous êtes historien, bon, vous avez évoqué Jules Ferry et la laïcité.
Oui, mais justement, n'oublions pas, la première république moderne, c'est les États-Unis, et ce sont les maçons qui ont insisté pour la rendre comme elle est. Sur 45 ou 46 présidents de la République des États-Unis, il y en a 14 qui ont été maçons. Roosevelt a été maçon.
Revenons en France. La Troisième République, il y a donc une opposition à l'Église qui a fait que la loi 1901-1905 était en partie dirigée contre l'Église catholique. Et vous avez écrit, je crois, un plusieurs livres. Alors, Paul, vous êtes initié, alors.
Hein?
Vous êtes initié vous-même. Vous en faites partie, des francs-maçons. Vous prenez leur défense systématiquement.
Ah, bien sûr. Non, je ne défends pas tout, mais je dis qu'il y a des choses.
Mais vous n'êtes pas initié.
Ah non, non. Je ne suis pas initié normalement. Mais comme j'ai eu deux collègues, je vous ai dit, qui étaient très, très, très haut placés, ils m'ont en quelque sorte initié.
Et on peut être chrétien et franc-maçon?
Bien sûr, il y en a beaucoup, j'en connais beaucoup, moi. Bon, il y a toujours eu des maçons.
Et vous avez apporté un livre ici de Jean Lancelin?
Oui, Lancelin.
Lancelin, pardon. Oui, chrétien et franc-maçon.
Chrétien et franc-maçon.
Alors que d'autres personnes, même ici à Radio Présence, ont évoqué plutôt des querelles anciennes, secrets maçonniques ou vérités catholiques. J'ai frappé à la porte du temple. Vous avez d'ailleurs écrit.
Oui, mais
une lettre à
ils m'ont pas répondu.
Alors, revenons à Jean Lancelin.
Mais, attendez, n'oublions pas, qui a attaqué le premier? C'est l'Église qui a attaqué la maçonnerie.
Entre les frères, c'est toujours l'autre qui attaque. Il faut garder un petit peu de sérénité et de paix.
Non, l'Église a commencé.
Peur des dogmes ou de...
Non. L'Église a attaqué, a excommunié les maçons. Et elle a non seulement attaqué au début, mais elle a prolongé pendant 250 ans. L'Église catholique a été l'ennemi acharné de la maçonnerie. Il ne faut pas l'oublier, ça. Alors, quand on fait la guerre à quelqu'un, il ne faut pas s'étonner qu'il réponde de la même manière. Alors, il y a évidemment la Troisième République qui a donné le maximum au conflit Église-maçonnerie. Et il y a une raison qu'on oublie. En même temps, la Troisième République a commencé en 1870, elle a terminé en 1940. Et la période la plus dure du conflit, ça a été entre 1880 et 1914. Or, à ce moment-là, l'Italie voisine, la botte italienne, était divisée en de multiples États, petits. Le plus important était Rome, où le pape était non seulement le chef spirituel des catholiques, mais un souverain temporel, avec les alliances et les ennemis. Et à ce moment-là, il y a eu en Italie, ce qui existait dans tous les autres pays, une poussée vers l'unité italienne. L'unification s'est faite grâce aux champions des maçons, au grand maître Garibaldi.
Et le pape s'est senti encerclé.
Attendez, le pape Garibaldi, hein, 1862, il a mené une expédition militaire contre le pape.
C'est ça.
Il a échoué. À ce moment-là, Napoléon III a envoyé, pour aider le pape, une troupe française. Mais en 1870, l'empereur des Français, qui était Napoléon III, a déclaré la guerre à la Prusse. Du coup, il a rapatrié la troupe qui était auprès du pape. Total, le mouvement populaire, le Risorgimento, a pris Rome et la région, et les maçons ont été les plus importants autour du roi d'Italie. Petit détail, le premier maire d'Italie s'appelait Nathan, il était juif et maçon. Les papes, du coup, se sont sentis comme prisonniers. Ils n'avaient plus aucune liberté.
Parlons plutôt alors Roncalli, Jean XXIII, il n'était pas dans la même position.
Comprenez bien, la situation en France était dure pour les catholiques. Ils ont été persécutés. En particulier, le gouvernement a chassé, dissous et exilé tous les ordres religieux. Hein? Les moines de la Grande Chartreuse ont été expulsés manu militari. Mais en même temps, il y avait en Italie les papes qui étaient furieux contre cette situation que les maçons leur imposaient. Et ça a duré jusqu'en 1929 où Mussolini a accordé le concordat et a donné au Vatican le droit d'avoir un État, le plus petit État du monde, minuscule, 44 hectares, la moitié de la place Saint-Pierre reste à l'Italie. Et ça a commencé à aller mieux.
Et aujourd'hui, Paul, comment est-ce que tout le monde n'est pas aussi érudit que vous et comment peut-être aller contre certains préjugés sans rappeler tous ces moments d'histoire douloureuse?
Certains catholiques comme certains maçons n'arrivent pas à se détacher de la situation ancienne. Mais heureusement, depuis la fin de la guerre de 14, les esprits se sont calmés.
On joue l'ouverture, on dirait, au rugby.
Tout à fait. Mais difficilement.
Pas tous.
Les catholiques savent comment ça a été difficile de parler avec les protestants et les juifs. Hein? C'est la même chose avec les maçons. Le dialogue est difficile. Et il reste des préjugés tenaces.
Qu'on ne connaît pas l'autre, dès que l'on peut rencontrer l'autre et surtout travailler ensemble. Vous avez dit, dans l'école, lorsque vous étiez... Donc, chrétien de l'enseignement public, vous n'étiez pas censé connaître l'appartenance à telle ou telle obédience de tel collègue. Et dans les quartiers, alors on dit à un tel, on le suspecte d'être de telle ou telle obédience et on ne parle pas avec lui.
Il n'y a qu'à regarder un petit peu, ouvrir les yeux.
Entre nos groupes de chrétiens, de catholiques...
Dans notre région occitane, ils sont nombreux, les maçons. Il y en a 3 ou 4 000 à Toulouse, les régions immédiates.
Il y a
80 loges à Toulouse, il y a 8 temples.
Et on a peur d'eux, parce qu'on ne les connaît pas.
Les citoyens sont aveugles. Alors que la maçonnerie est une excellente école de formation de citoyens. Les maçons doivent s'engager... Les chrétiens aussi, est-ce qu'ils le font tellement? Les maçons s'engagent. Et étant donné qu'ils ont beaucoup réfléchi dans leur loge...
Est-ce qu'ils connaissent la Bible?
Bien sûr.
On leur reproche l'anticléricalisme.
Mais c'est pas... Vous avez parlé de Salomon tout à l'heure. Ils ont un temple. Ils sont d'origine anglicane. Les protestants connaissent la Bible. On est surpris, ils connaissent beaucoup plus la vie de l'Église que nous le connaissons, nous, souvent.
Mais peut-être qu'ils l'interprètent autrement?
Ah, les dogmes leur font peur. Les dogmes sont irrationnels.
Alors, vous dites, comme historien, il y a la réalité concrète de vos études, et puis il y a aussi une partie de vous-même qui disent bon, il faut compter dans la prière, dans l'esprit qui nous apporte un petit peu de paix, et l'esprit souffle où il veut. Alors, vous dites, mais non, ils ne sont pas forcément sans religion, ou agnostiques, ou athées, d'ailleurs ils peuvent être chrétiens et maçons, mais c'est plutôt des gens qui sont incultes, critiquent.
Excusez-moi. S'il y a des gens qui sont formés, ce sont bien les maçons. Les chrétiens sont souvent des gens incultes, dans les paroisses, les chrétiens moyens. Hein? Eux étudient beaucoup de thèmes. J'en ai un qui m'a envoyé. Il était dans une loge à Mayotte. Il m'a envoyé ce qu'il a, le discours qu'il avait fait à sa loge. Parce qu'ils font à tour de rôle des discours à leur loge sur un thème qu'ils ont librement choisi. Il avait choisi la règle de Saint-Benoît. J'ai envoyé un ami bénédictin, il m'a dit « mais c'est excellent ce qu'il a fait ».
Alors l'œcuménisme unit les chrétiens après les guerres de religion. Qu'est-ce qui va pouvoir unir dans la laïcité actuelle, malgré la sécularisation? Qu'est-ce qui va pouvoir unir les personnes de bonne volonté, ceux qui croient au ciel ou ceux qui n'y croient pas, et surtout casser les préjugés et la mauvaise réputation?
N'exagérez pas cette mauvaise réputation. Vous y insistez beaucoup.
Parce qu'on ne la connaît pas.
Oui, mais ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'on est contre. Oui. Encore une fois, en particulier dans le midi de la France, c'est fou le nombre de maires et de députés qui sont maçons. Ne parlons pas dans tout gouvernement français, depuis des siècles, il y a toujours eu des maçons. Et nous votons pour les maçons à Toulouse.
Et donc on reconnaîtra l'arbre à ses fruits.
Les maçons préparent les citoyens. C'est remarquable.
Donc ça, c'est le mot de la fin, Paul, mais nous pourrions vous écouter encore de longs moments avec l'admiration pour votre érudition. Ma foi, j'y crois, c'est vraiment pour vous, à travers les lectures et à travers les relations humaines, que l'on peut se rencontrer et fraterniser. C'est le mot-clé.
Tout à fait. Mais
la fraternité.
Moi, je suis à l'aise avec les maçons et eux sont à l'aise avec moi. Nous échangeons souvent. Ce sont des gens, ils ont un terme très joli, ce sont des cherchants.
Merci Paul et merci à Christophe pour l'enregistrement.
Vous venez d'écouter une nouvelle émission de Benoît Petit, Ma foi j'y crois. Le principe de cette émission, vous le connaissez et nous l'aimons. Il s'agit de laisser s'exprimer librement la foi qui anime l'invité. Cependant, certains d'entre vous ont pu être choqués par les propos qu'a tenus aujourd'hui l'invité de Benoît Petit sur les liens entre l'Église et la franc-maçonnerie. Aussi, je vous rappellerai l'hostilité affichée du pape François et aussi ses propos de Benoît XVI. Les fidèles qui appartiennent aux associations maçonniques sont en état de péché grave. Les motifs pour lesquels l'Église continue de condamner la franc-maçonnerie sont au nombre de quatre. Le naturalisme, l'anticléricalisme, le relativisme doctrinal et enfin le secret maçonnique. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité à Radio Présence.